On va commencer par lire Hébreux, on va lire les versets 1 à 7. On va reprendre les trois versets que l'on a vus la semaine dernière, mais on va lire ensemble dans la version second 21 pour ma part. Si vous avez besoin d'une Bible, quelqu'un peut vous en passer. Donc nous sommes dans le grand chapitre de la foi. Et je lis à partir du verset 1 du chapitre 11. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Et notre passage, nous allons voir plus en détail aujourd'hui, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous allons nous arrêter là pour l'instant. Des exemples de la foi. La foi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces versets nous montrent qu'en fait, la foi, c'est la façon d'aller à Dieu. La foi, c'est, nous l'avons vu la semaine dernière dans une... Peut-être pas une définition, mais une description des trois premiers versets du chapitre 11. On a vu que la foi, c'était la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on a fait remarquer que la foi, elle était toujours suite à un manque de satisfaction avec la situation présente, avec le statu quo. Si vous êtes bien dans votre vie, que vous ne cherchez pas d'autres, vous n'avez pas d'aspiration qui dépasse votre quotidien, alors la foi n'est pas pour vous, la foi n'a pas d'ordre, de raison d'être. La foi, on a dit, c'était croire Dieu. On a vu plusieurs définitions. Je voudrais en ajouter une aujourd'hui. La foi, c'est une réponse positive à une révélation divine. C'est pour ça que Paul dira dans Romains 10, 17, « La foi vient de ce qu'on entend la parole, et la parole vient du Christ. » Il y a besoin de la parole, de la révélation pour choisir de la façon dont on va répondre. Réponse positive à une révélation divine. On va voir dans le reste du chapitre tout un tas d'exemples d'hommes et de femmes qui ont fait preuve de foi. Quand on lit le livre des Actes, on sait que ça ne s'arrête pas au dernier chapitre que vous trouvez dans vos Bibles, le chapitre, le dernier chapitre du livre des Actes dans la Bible, c'est le chapitre 28. Mais le chapitre 29, il nous appartient à nous de l'écrire. Le Saint-Esprit n'a pas fini d'agir. Il agit à travers nous. Les grands exemples de la foi qui sont rapportés ici, ils ne sont pas complets. Il vous appartient de vous inscrire dans la lignée de ces exemples. Vous pouvez, vous aussi, même si vous n'êtes rien de spécial par vous-même, cultiver votre foi et faire des grandes choses pour Dieu, par la foi. Et pas pour vous glorifier, mais pour glorifier Dieu. Et donc, on a là ce matin trois témoins de Dieu qui ont fait preuve d'une grande foi. Et ces témoins, en fait, ils étaient les plus anciens, c'était ceux qui étaient avant le déluge. On dit en français, pour dire des choses qui datent d'avant le déluge, c'est antidiluvien. Anté, ça veut dire avant, déluge, diluvio, c'est le déluge, l'inondation universelle qui a affecté la Terre et qui est un fait scientifique. Le déluge, ce n'est pas un mythe fondateur. Il y a des récits dans la plupart des cultures de par le monde d'un moment où il y a eu une inondation. Donc, ceux-là, c'était les premiers. On va voir d'abord un dénommé Abel. Il va nous montrer, lui, la voie de la foi. Le suivant, ça va être Hénoch, qui va nous montrer la démarche de la foi. Et le dernier, ce sera Noé, qui va nous montrer le travail, le témoignage de la foi ou le travail de la foi. Donc, tous ces exemples nous montre vraiment ce qu'est la foi. Toutes les définitions qu'on essaye d'utiliser, ou même cette description qu'on a trouvée au verset 1, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est bien beau une définition, mais vous-même, lorsque vous apprenez, vous aimez bien avoir des exemples vivants, des exemples que vous pouvez mieux comprendre qu'un principe abstrait. Et chacun de ces personnages que nous allons voir au cours des prochaines études va nous donner un aspect de la foi, va nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que la foi. Et ce que je vous invite à faire, c'est de vous demander, au fur et à mesure qu'on va parler d'eux, en quoi vous leur ressemblez ou en quoi vous ne leur ressemblez pas. Est-ce qu'il y a des domaines où vous devez prier pour que Dieu vous aide et vous donne une foi plus grande? Et donc, le premier, c'est Abel. Vous vous souvenez que Adam et Ève, là encore, ce n'est pas un joli mythe fondateur. Je répète cela parce que malheureusement, il y a beaucoup d'églises chrétiennes qui, impressionnés par les développements de la science humaine, par les développements de la psychologie, de la sociologie, de l'histoire, de la philologie, c'est l'étude des textes, ils ont tendance à prendre la Bible comme un recueil de bons principes. Mais vous savez ce qu'on fait des bons principes? On ne les applique pas parce qu'ils ne nous parlent pas directement. Lorsqu'on sait que ces événements ont eu lieu historiquement, c'est tout à fait différent. Et ici, nous pensons que la Bible entière est la parole de Dieu, qu'elle est la vérité, que nous pouvons fonder nos vies dessus. Ce n'est pas une belle philosophie qui est poétique, qui est au même titre qu'une philosophie orientale ou africaine ou ce que vous voulez. Ces choses, on peut les respecter, on peut les étudier même, mais ne fondez pas vos vies dessus, parce qu'elles ne sont pas la révélation divine. On a parlé la semaine dernière que pour expliquer le monde, il n'y a que deux principes, la révélation divine ou la spéculation humaine. Si vous aimez spéculer, alors vous n'aurez pas besoin de la révélation divine. Mais si vous voulez connaître la vérité, il faut aller à la révélation divine qu'est la parole de Dieu, qu'est la Bible. C'est très important. Et si l'Église n'a pas l'influence qu'elle a, je crois que c'est parce que on s'est moulé dans la philosophie du monde. On a des valeurs républicaines. Vive les valeurs républicaines, mais sachez bien que les valeurs républicaines, elles ont leur source réelle dans la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas les révolutionnaires qui ont inventé ça. C'était déjà enseigné, c'était déjà quelque chose qui était dans la culture et qui a été mis en forme. Les droits de l'homme, c'est très bien, mais les droits de l'homme, c'est les devoirs que Dieu nous donne. Voilà, pour une introduction. Mais Abel, c'est en fait le premier homme qui ait vécu par la foi. Vous allez me dire, mais ses parents, Adam et Ève, n'ont-ils pas vécu par la foi? En fait, on sait, on va regarder un peu le récit, de certaines portions du récit de la Genèse. On sait qu'ils pouvaient vivre par la vue puisqu'ils étaient dans le jardin d'Éden et qu'ils avaient une relation directe avec Dieu, qu'ils le voyaient. Il est dit qu'ils marchaient dans le jardin avec Dieu. Et je crois que, au fond de nous, nous avons imprimé dans nos gènes antidéluviens, jusqu'à maintenant, la nostalgie profonde de cette démarche avec Dieu. Les choses qui nous émeuvent, les choses qui peuvent amener des pleurs dans nos cœurs ou même dans nos yeux, c'est cette aspiration à être ce que nous étions, ce que nous avons été créés pour être, des personnes, des êtres en relation intime avec Dieu. En ce moment, c'est le Festival de Cannes. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont verser des larmes à la projection de certains films. Mais s'ils sont honnêtes et s'ils regardent, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la vérité, l'amour, le sentiment de haine contre l'injustice, le sentiment d'une vie perdue, le sentiment de la mort qui arrache les êtres qu'on aime. Mais tous nous aspirons, nous avons en mémoire cette idée que nous pouvons marcher avec Dieu dans le jardin. Ça, c'est notre idéal, même si on le reconnaît pas. Et nous savons que nous ne sommes pas ici pour un instant. Nous savons que nous sommes faits pour l'éternité. Dieu a mis en nous le sentiment de l'éternité, il est dit dans l'Ecclésiaste. Donc cet homme Abel, c'était le deuxième fils d'Adam et Ève. Le premier, c'était le dénommé Caïn. Vous vous souvenez que après avoir été créé, après avoir été appelé à nommer tous les animaux, à dominer sur eux, Dieu dit que la création était belle. Il constata, fin du verset 1 de la Genèse, il constata que tout ce qu'il avait fait était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Mais on sait que, même si on n'est pas exactement informé à ce niveau de la Bible dans la Genèse sur l'origine de Satan, un ange déchu, on sait par ailleurs dans Ésaïe, dans Ézéchiel, Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28, que Satan était un ange de lumière créé par Dieu, mais qui voulait se faire adorer comme Dieu. Et il a voulu prendre la gloire qui revenait à Dieu, et il a causé la désobéissance de l'homme et de la femme en leur faisant croire que Dieu était un menteur, qu'il leur avait dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'en fait, si justement ils en touchaient, ils deviendraient comme Dieu. Et il a dû les... Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin. Et il les a... C'est à ce moment-là qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. Le péché était entré dans la race humaine. La désobéissance à l'ordre divin de ne pas faire quelque chose avait été enfreint. Et dans cet état de péché, Dieu a dû les rejeter de ce qu'on appelle le paradis, le jardin d'Éden, parce que le serpent était venu les tenter et ils avaient succombé. Dès ce qu'on appelle la chute de l'homme, Dieu promet une solution à l'homme. Il nous la révèle lorsqu'il est dit au chapitre Genèse 3, 14, chapitre 3, verset 14, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Et verset 15, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et là, il promettait quelqu'un qui viendrait racheter l'humanité, le fils de la femme. Et c'est une allusion directe, c'est ce qu'on appelle des fois le proto-évangile, un évangile en germe, que de la femme, donc de Ève par l'homme, va arriver un sauveur, et que lui, il va écraser la tête de Satan, même si Satan va lui blesser le talon. Et là, on pense de façon unanime que la blessure au talon, c'est la croix. Dieu s'est retrouvé à souffrir, à mourir sur la croix, mais en mourant sur la croix, il écrasait la tête de Satan, il écrasait les œuvres de Satan. Et si Caïn a été appelé Caïn, et pas Caïn, c'est un mauvais jeu de mots, pardon, non, si, c'est parce qu'il pensait, ses parents pensaient que c'était justement la personne dont Dieu venait de parler qui est arrivée. Et c'est ce que veut dire Caïn, ça peut vouloir dire artisan, ça peut vouloir dire acquérir, mais l'idée c'est de créer. Donc elle est tombée enceinte et qu'elle a mis au monde un enfant, elle a dit, c'est celui que j'ai créé, et elle pensait, elle a dit, j'ai donné la vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle pensait que cet homme allait résoudre le problème du péché. Fort de Genèse 3.15, qu'elle n'appelait pas Genèse 3.15, parce que je vous rappelle que les chapitres de la Bible, c'est en 1227, les versets de la Bible, c'est en 1551 qu'ils ont été institués, ou créés, ou définis. Et elle a... En fait, il ne réalisait pas que le problème du péché allait durer aussi longtemps. Ça aurait été formidable si Caïn avait pu résoudre le problème du péché dès ce moment-là. Mais il a fallu que Jésus arrive, qu'il écrase les œuvres de Satan. Et maintenant, nous sommes dans une situation où Satan est encore appelé le maître de ce monde. Il a encore malheureusement un grand pouvoir sur l'humanité. C'est un pouvoir usurpé. Et nous qui connaissons Jésus, nous devons le faire connaître aux autres pour qu'ils sachent qu'ils n'ont plus à se plier aux exigences de Satan. Nous n'avons plus à vivre dans le péché inspiré par Satan. Si nous le faisons, surtout en tant que chrétiens, c'est que nous choisissons délibérément de faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Dieu peut nous pardonner, mais Dieu nous pardonne si nous venons à lui dans la repentance, mais nous nous épargnerons bien des malheurs si nous cherchions, avec son aide, à faire sa volonté tout le temps. Pas juste de temps en temps, mais à chaque instant. Est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Est-ce que je cherche à lui plaire? Et donc dans la Genèse 4, on va continuer, il est dit, elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel, ça veut dire ce qui monte comme un souffle ou une vapeur. Quelque chose qui rappelle un peu la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu, cette idée d'aller vers Dieu. Caïn ne cherchait pas Dieu, nous allons en reparler. Abel, lui, cherchait à plaire à Dieu. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Un éleveur, Abel, et un agriculteur, Caïn. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» J'aime bien cette expression, « arborer un air sombre ». Est-ce qu'il vous arrive d'arborer un air sombre le matin quand vous vous levez, surtout le lundi matin ? Il n'était pas content et ça se voyait sur son visage. « Pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Un passage un peu difficile à comprendre au premier abord. On a l'impression que Dieu fait du favoritisme. Il y a deux frères. Il n'y a jamais eu des personnes dans un environnement si identique. Il n'y avait pas 50 races humaines, ils étaient du même père et de la même mère. L'environnement était parfait. Ils étaient déjà exclus, mais ils n'avaient pas de. C'était en eux-mêmes qu'il y avait cette différence. Il y en avait un dont le sacrifice a plu à Dieu et l'autre ne lui a pas plu. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'il préfère des. C'est pas de sa faute, il y en avait un qui était berger, donc il amène sa dîme de la production, donc il amène un agneau, qu'il sacrifie, ou plusieurs agneaux même. Et puis l'autre, il faisait de l'agriculture, qu'est-ce qu'il faisait? Il ramassait du maïs, des patates, du blé, et il amène des offrandes de ce genre. Des produits de la terre. Et on a l'impression que tous les deux ont le même mérite, ils veulent plaire à Dieu et ils offrent un sacrifice, ils offrent leur dîme. Principe qui reste valable aujourd'hui, d'offrir une partie de ce que Dieu nous donne pour reconnaître avec lui que tout ce que nous avons, ça lui appartient. Et il est dit, donc, on a l'impression, je voulais venir à ce point, que Dieu fait du favoritisme. J'ai au moins 5 ou 6 passages dans toute la Bible qui disent clairement que Dieu n'a pas de chouchou. Je peux le dire parce que le chouchou n'est pas là aujourd'hui. Dieu n'a pas de favori. Si on regarde dans 2 Chroniques 19, c'est page 2 Chroniques 19, 7, c'est pas la peine de vous y tourner. Je vais lire ces quelques versets. Deux Chroniques 19, 7. Maintenant. C'est une citation par un roi à respecter la loi. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pot de vin. C'est curieux de penser que Dieu prendrait des pots de vin. Il a Job 32, 21, même topo. Si vous prenez des notes, je vous invite à noter ces versets. Et si vous ne prenez pas de notes, je vous invite à prendre des notes. Pas parce que ce que je dis est si génial, mais parce que je sais que personnellement, j'apprends en écrivant. Et ce qu'on entend, on le retient à 10%, ce qu'on écrit, on le retient à 20%, et ça va, ce qu'on se répète, c'est 30%, et ce qu'on pratique, c'est à 90%. Donc, je disais, Job 32, 21... C'est Job qui parle, mais il dit « Je ne ferai preuve d'aucun favoritisme et je ne flatterai personne. De fait, je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Dieu ne tolère pas les favoritismes, les pots de vin. » Ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Acte 10, 34. Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Pour ajouter, celui qui a la foi et la met en pratique lui est agréable. » On pourrait aller voir Galates 2, 6, Éphésiens 6, 9, 1 Pierre 1, 17, mais je vous laisse vous assurer que la Bible nous annonce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il se peut que vous ayez le sentiment que d'autres personnes ont une vie plus facile que la vôtre. Et c'est sans doute vrai. Il y a des gens qui ont plus d'argent, d'autres qui ont une meilleure santé, d'autres qui ont les deux. Et en plus, ils ont la beauté. Et on peut se dire, mais Dieu n'est pas juste. Il a des chouchous, il a des favoris. En fait, la Bible nous dit non, c'est pas vrai. Et tous nous pouvons être au bénéfice de son amour et le recevoir si nous vivons par la foi, si nous lui faisons confiance, même quand les choses n'ont pas l'air d'aller. C'est l'enseignement de Abel. Il est dit qu'au bout d'un... Donc on se demande pourquoi il y en a un dont le sacrifice est accepté et l'autre ne l'est pas. On peut penser que Adam et Ève avaient appris à leurs enfants que Dieu avait dû faire un sacrifice animal, qu'il avait dû tuer probablement un agneau pour les recouvrir de vêtements, de peau, après le péché. Et on l'a vu dans Hébreux 9, 31, je crois, sans écoulement de sang, sans épanchement de sang, il n'y a pas de pardon. Le péché est tel que le sang doit être versé pour obtenir le pardon. Et certes, il y avait des sacrifices de liquide, de vin, d'huile, de farine, des sacrifices de choses agricoles, mais il y avait toujours, pour s'approcher de Dieu, il fallait un sacrifice de sang. Et on peut penser qu'en fait, Abel s'en souciait, il se trouvait qu'il élevait des animaux, donc ça lui était plus facile peut-être qu'à Caïn. Mais Caïn, lui, venait avec son propre idée de ce qu'était un sacrifice. En d'autres termes, Abel obéissait aux requêtes de Dieu d'amener un sacrifice de sang, alors que Caïn, lui, il amenait l'œuvre de ses mains, pensant que Dieu allait être impressionné et lui pardonner ses péchés. L'agneau, bien sûr, c'était un type, c'est-à-dire une préfiguration de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Caïn, c'était le premier homme, et Dieu sait s'il a été suivi par des milliards de tels hommes, jusqu'à nos jours, jusque peut-être dans nos vies, dans ma vie, qui pensent qu'ils peuvent s'approcher de Dieu en lui offrant l'œuvre de leurs mains. Et ça, c'est le principe de la fameuse BA, la bonne action des scouts. Si je fais du bien, alors peut-être que la balance va pencher davantage du côté du bien que du côté du mal. Et à ce moment-là, Dieu, qui a une grande balance dans le ciel, va être obligé de m'accepter, de me pardonner, de m'accueillir, de me recevoir. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens autour de nous, quand on leur parle de leurs besoins de Dieu, ils disent « mais j'ai pas besoin de Dieu, je suis un honnête citoyen, je paie mes impôts, je donne de l'argent au Téléthon ». Quand je vois quelqu'un dans la rue, je lui donne une pièce ou je lui achète un sandwich. Tout ça sont des bonnes choses. Mais si on compte sur ses bonnes actions, sur ses œuvres, les œuvres de la chair, pour venir à Dieu, on se trompe tragiquement. Dieu ne peut pas nous agréer sur la base de nos propres œuvres. Et en fait, le reste du passage de Hébreux nous indique, oui, il y avait un problème, c'était que Abel obéissait à Dieu et Caïn n'a pas obéi à Dieu. Caïn n'a pas offert son sacrifice dans la foi, dans la confiance à Dieu, il a essayé de l'impressionner. Nos louanges, nos prières doivent être remplies de foi. Il est dit qu'Abel a offert un sacrifice de plus grande valeur, plus grand que celui de Caïn. Dieu veut que vous lui offriez le meilleur de ce que vous pouvez lui offrir. S'il est vraiment à la première place, on aura à cœur de lui donner le meilleur de nous-mêmes, de lui donner notre cœur. Dieu ne veut pas nos œuvres, il veut notre cœur. Il a été accepté. Alors, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et puis il n'accepta pas l'offre de Caïn. Alors, on ne sait pas exactement comment ça s'est matérialisé, comment ça s'est montré. Peut-être que l'offrande, si on fait référence à d'autres sacrifices dans l'Ancien Testament, sur le mont Horeb avec le prophète Élie, peut-être que la foudre du ciel est tombée sur l'offrande d'Abel et que rien ne s'est passé pour l'offrande de Caïn. Et donc Caïn, il a été irrité, il a été vexé, mais en fait, il n'agissait pas par la foi. Il venait à Dieu avec ses forces humaines, avec l'œuvre de ses propres mains. Il avait travaillé la terre, il avait récolté des produits qu'il amenait à Dieu, mais il n'a pas offert le bon sacrifice. Et c'est grâce à la foi qu'a montré Abel en offrant un sacrifice conforme à ce qu'il avait reçu. Il avait eu la révélation divine par ses parents que pour s'approcher de Dieu, il fallait venir avec un sacrifice de sang. Et je vous rappelle notre petite définition, la foi, c'est la réponse positive à une révélation divine. Caïn avait entendu le même message, mais il avait dû se dire, je ne vais pas acheter un agneau ou des animaux alors que j'ai tous ces produits que je peux offrir à Dieu, il va être content. Il n'a pas... L'un a été déclaré juste, verset 4 de notre passage, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par cette foi qu'il nous parle encore, bien qu'étant mort. Aujourd'hui, c'est avec la technologie moderne, nous avons plein de prédicateurs qui sont morts physiquement, mais qui nous parlent encore. On peut écouter leurs messages enregistrés en MP3. On peut aller faire du jogging et écouter un message de Chuck Smith ou d'autres personnes. Mais c'est là, cette expression, il nous parle bien qu'il soit mort. Son exemple d'obéissance, son exemple de foi en ce qu'il avait reçu et il avait agi en fonction de cette instruction, cette révélation divine, il avait fait preuve de foi, il nous parle encore aujourd'hui. Il nous interpelle. Il nous dit que il faut offrir ce qu'on a de mieux et sans doute Caïn était non seulement frustré de ce que son œuvre ne soit pas acceptée par Dieu, mais j'ai l'impression qu'il était plus vexé que celui de son frère soit accepté et le sien ne soit pas accepté. Je disais qu'on a tendance à penser que Dieu fait des favoris. Jésus disait à Pierre, qui lui demandait ce qui allait advenir de Jean, il disait « Toi, suis-moi, occupe-toi pas de ce qui concerne les autres. » Dieu nous appelle à pas nous dire « Tiens, un tel est plus favori que moi. » Il nous appelle à le suivre de tout notre cœur. C'est à cause, verset 5, « C'est à cause de la foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait reçu en effet le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Là, on avance dans la Bible. C'est merveilleux de voir l'unité de la Bible, de voir comment le Nouveau Testament nous explicite l'Ancien Testament, nous parle des exemples historiques de l'Ancien Testament pour nous en permettre de retirer des leçons vivantes. Enoch, il faisait partie des descendants d'Adam. C'est dans la Genèse 5. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Et puis, on voit qu'à l'âge de 130 ans, Adam eut un fils qu'il appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Et on voit la suite des patriarches de cette descendance des premiers hommes. Adam a été suivi de Seth de Enoch, pas Enoch, Enoch, puis Kenan, et puis Mahalaleel, et puis Jéred, et puis finalement Jéred, c'est le verset 5-18 de la Genèse, à l'âge de 162 ans, Jéred eut pour fils Enoch. Jéred vécut 800 ans après la naissance d'Enoch et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methushala, qu'on appelle des fois Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methushala et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. 365 jours dans un an. Maintenant, vous savez, dans la vie d'Enoch, combien de temps il a vécu ? 365 aussi. Mais c'est des années, hein, pas trop des jours. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Au passage, on se plaint des fois d'avoir à lire des généalogies. En fait, c'est un grand passage qui annonce l'Évangile. Si on regarde la signification des noms des patriarches en hébreu, on s'aperçoit que Adam, ça veut dire l'homme, Seth, c'est réservé, Enoch, c'est mortel, Kenan, c'est le chagrin, Mahalaleel, c'est le Dieu béni, Jéred, c'est viendra d'en haut, Methushela, c'est sa mort amènera, Enoch, c'est, on l'a dit, je crois, enseignant, Methushala, c'est sa mort amènera. Et finalement, Lémèque, c'est ceux qui désespèrent. Et Noé, la lignée entre Adam et Noé, le nom des patriarches, Noé, ça veut dire repos ou consolation. Si on les met bout à bout, ça nous dit qu'à l'homme est réservé un chagrin mortel. Mais le Dieu béni viendra d'en haut, enseignant que sa mort amènera à ceux qui désespèrent repos et consolation. Ceux qui pensent que la Bible est un livre comme les autres, intéressant, un livre de... n'ont rien compris à la richesse. Dès le premier livre de la Bible, la Genèse, le plan de l'Évangile est annoncé par la signification du sens des noms des patriarches. Mais revenons, c'est une petite parenthèse qui demanderait une étude entière et qui vous montre qu'on peut croire la Bible, qu'elle a des filigranes intégrées comme un billet de monnaie qu'on regarde. Ça, c'est pas n'importe qui a mis ça au point. Parce qu'en fait, ça a été retrouvé il y a que peu de temps, que les hommes, en étudiant un peu plus sérieusement, avec les ordinateurs et des choses comme ça, on trouve que la Bible est absolument fantastique, fabuleuse, de richesse, de prophétie, d'enseignement, d'historicité, etc. Cet Enoch, donc, il a... Quelque chose s'est passé à l'âge de 65 ans. Les hommes vivaient si longtemps, on verra, en parlant de Noé, c'est parce qu'on pense qu'ils étaient protégés des radiations cosmiques qui causent la détérioration de nos cellules et de notre ADN par une espèce de calotte d'eau qui entourait la Terre comme une serre et qui arrêtait les rayons nocifs. On voit dès que le déluge, qui est la rupture de cette canopée, de cette seconde sphère qui entourait la Terre avec de l'eau, s'est brisée, l'âge des gens a chuté dramatiquement. Mais à 65 ans, ce n'était pas vieux à l'époque. Aujourd'hui, on peut prendre sa retraite maintenant en France, ou non, pas longtemps, je ne sais plus. Il a eu un fils qu'il a appelé sa mort Amenra, qu'on lui a fait appeler sa mort Amenra. Il devait être très nerveux avec ce fils, Mathusalem, Methuselah, parce que dès qu'il tombait, dès qu'il se faisait mal, il ne faut pas qu'il meure, parce que sa mort va amener quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais ce n'est pas bon. Et ça a provoqué quelque chose dans sa vie. Quand il a vu ce bébé, et c'est bizarre de penser à Mathusalem comme un bébé, puisqu'il a vécu, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité, 969 ans. Il a fait que son père a commencé à se poser des questions. Je sais que personnellement, j'avais reçu un enseignement catholique, je n'étais pas vraiment croyant en Jésus, je n'avais pas compris le salut ni mon péché vraiment dans l'Église catholique. Mais lorsque j'ai eu mon premier enfant, Tonio, je le tenais dans mes bras et je voyais ses petits yeux qui me regardaient, ça m'a aussitôt fait penser: qu'est-ce que je fais de ma vie? Voilà la nouvelle génération qui est entre mes bras. Moi, mes jours sont bien avancés déjà, et ils le sont encore plus aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais de ma vie? À quoi je sers? Quelle est la raison de ma présence sur Terre? Et c'est ce qui m'a conduit à chercher Dieu et à apprendre à marcher avec lui. Alors, je ne me compare pas à Enoch. Et on dit que Enoch avait l'habitude de marcher avec Dieu. Dieu venait avec lui, marcher ensemble. Puis un jour, ils avaient eu une longue conversation. Enoch a dit: oui, il est tard, il faut que je rentre. Et Dieu lui a dit: mais on est plus près de chez moi maintenant que de chez toi, pourquoi tu ne viens pas à la maison? Et donc il l'a emmené, et Enoch est un des personnages, des personnes de la Bible rares qui soit passé en présence de Dieu sans passer par la mort. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et le verset 6: sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On a vu l'importance de ce verset. Mais s'il était agréable à Dieu, c'est parce qu'il avait fait preuve de foi. Il avait confié sa vie, la vie de son enfant, et il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus. Il a été enlevé, translaté, warpé, si je pouvais me permettre une expression anglaise. Il a été transporté, transposé en un instant, en présence de Dieu. parce qu'il marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu, il a été emmené avec Dieu. C'est un bel exemple aussi de la foi qui marche, la foi qui marche avec Dieu. Et puis, c'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Là aussi, on a la foi qui se manifeste par une œuvre, par un travail. On voit dans cette petite histoire, alors là, ça fait bien sûr allusion au passage de la Genèse du chapitre 6, 7, 8, 9. Il y a d'abord Dieu remarque que l'homme est attiré par le péché. Genèse 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. » Donc la durée de vie, même avec la meilleure des santé, on peut penser que ça sera toujours aux alentours de 120 ans, contrairement à ce que certains nous prédisent. Et verset 5, « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. L'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Genèse 6, 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis, il commence au verset 9, voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce que vous marchez avec Dieu? On voit que c'est clé et c'est un signe de foi. Enoch avait la foi, il a marché avec Dieu. Abel, lui, s'est présenté avec les sacrifices demandés par Dieu. Et là, on voit que Noé va répondre par la foi au commandement de Dieu, à l'avertissement de Dieu. Noé eut trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, une révélation divine, « La fin de tous les hommes est dessinée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux, tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et en dehors. » Donc il lui donne des instructions pour construire l'arche de Noé. Et il nous est dit, il est dit qu'il lui recommande de prendre des animaux, des couples d'animaux, d'oiseaux, des reptiles, de chaque espèce pour conserver leur vie. Et quant à toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé, il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Réponse positive à une révélation divine. Si Dieu vous demande quelque chose, si Dieu vous révèle quelque chose, quand vous lisez sa parole, quand il vous donne des circonstances, quand il vous donne des instructions, que ce soit directement par une forte impression que le Saint-Esprit vous dit de faire quelque chose, la foi, c'est de répondre, c'est d'obéir à la révélation divine. Il a donc construit cette arche Et encore une fois, il était assuré des événements que Dieu lui avait annoncé. Et il était rempli d'une crainte respectueuse, une sainte peur. Il connaissait la puissance de Dieu, il savait qu'il fallait lui obéir, non seulement parce que Dieu le voulait, mais parce que c'était pour le bien-être. Il était averti des événements, de ce déluge qui allait arriver. Et on peut imaginer que la foi, d'abord, c'est obéir à la parole de Dieu. Il a écouté, il a obéi. Et pourtant, on peut imaginer les moqueries des gens qui vivaient autour de lui. Noé, le jugement arrive, je vais détruire le monde par un déluge, construis-toi un bateau. Il n'a pas mis en question la vie de Dieu, il s'est mis au travail et il a travaillé pendant 120 ans, alors qu'il n'avait jamais encore plu à l'époque, qu'il était à des milliers, à des centaines de kilomètres de s'il y avait des espaces d'eau importants, des lacs, mais comme il n'y avait pas plu, certains mettent en question même l'existence de la mer à l'époque. Et pourtant, il construit ce grand truc au milieu des champs par la foi. Il a écouté, obéi la parole de Dieu. Il a montré le plus grand respect pour la parole de Dieu. Est-ce que je montre la même crainte respectueuse devant la parole de Dieu, devant ce que Dieu me dit directement par le Saint-Esprit, par ceux qui m'entourent, par les circonstances, ce qu'il me dit surtout dans sa parole? Dieu lui avait parlé et Noé n'a pas mis en question, il a été divinement averti et il a surtout aussi surmonté les défis lancés par la foi. Nous, on n'a pas de mal à parler de l'âge de Noé parce que dès l'âge de l'enfance, on nous a montré des dessins, on nous a raconté des histoires si on est dans un milieu catholique, mais même si on n'a pas d'arrière-plan religieux, l'arche de Noé, c'est quelque chose d'assez connu. Mais à l'époque, il faut réaliser que c'était un bateau absolument gigantesque. C'est un bateau qui devait faire 150 mètres de long, donc presque deux fois la dimension d'un terrain de foot. Un terrain de foot, c'est entre 90 et 120 mètres de long. C'était un bateau de 25 mètres de large, c'est-à-dire le double, plus du double d'ici à ce mur. Je crois que ça fait 13 mètres, ou près du double. Ça faisait 15 mètres de haut. Il a fallu attendre 1884 pour que les hommes construisent un navire aussi grand. On parle de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, le tour du monde par Magellan, les grands navigateurs Vasco de Gama et compagnie. C'est le premier bateau construit par l'homme, à part celui de Noé. C'était en 1884, le paquebot L'Etruria. Ça, c'est pour la question pour un champion. Il y avait un conflit entre sa raison humaine et ce que Dieu lui demandait de faire, mais il a cru en Dieu. Il a vécu par la foi. Il a construit cette arche. Il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Condamné le monde, pourquoi ? Parce qu'il était un témoin d'un homme juste dans une société pervertie. Il donnait mauvaise conscience aux gens qu'il voyait, qui vivaient autour de lui. De cette façon, il condamnait, mais il a aussi permis que le monde soit détruit, peu importe. Cette foi était quelque chose qui condamnait le monde. Votre foi, la façon dont vous vous comportez en suivant les préceptes de Jésus, en aimant votre prochain, en l'aidant, en l'aimant, c'est un reproche à ceux qui vivent pour eux-mêmes, ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui n'ont ni foi ni loi. Et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Encore une fois, la foi, comme Abel l'avait compris, c'était par le sacrifice qui était offert à Dieu, un sacrifice de sang. Et il est devenu héritier de la foi, de la justice que nous recevons lorsque nous mettons notre foi dans ce sacrifice de sang qui préfigurait le sacrifice de Jésus-Christ. Amen.